Malgré les préoccupations alimentées par la propagation du coronavirus, cette crise est loin d'influencer la principale mission de l'armée iranienne de garantir la sécurité de la République islamique d'Iran, a déclaré le coordinateur adjoint de l'armée iranienne. Des avions de combat de l'armée de l'air irakienne ont bombardé le dimanche 22 mars 10 fiefs des terroristes Daesh dans les montagnes de Hamarin, au nord de l'Irak. Les autorités locales afghanes ont fait part d'une attaque à la roquette contre une base américaine dans la province de Parvan. Et en Guinée, plusieurs personnes ont été tuées ou blessées dans des heurts lors du double scrutin. C'était les titres, en voici le journal. Malgré les préoccupations alimentées par la propagation du coronavirus, cette crise est loin d'influencer la principale mission de l'armée iranienne de garantir la sécurité de la République islamique d'Iran, a déclaré le coordinateur adjoint de l'armée iranienne, le contre-amiral Habibollah Sayari. Le contre-amiral Habibollah Sayari a déclaré dimanche 22 mars que l'armée iranienne était passée à l'acte dès le début de la crise du coronavirus. La principale mission de l'armée iraquienne est de défendre le pays et d'en assurer la sécurité, mais elle emploie en même temps ses capacités sanitaires et médicales pour prêter main forte aux Iraniens, a expliqué Habibollah Sayari. Les inquiétudes concernant la propagation du coronavirus n'ont pas impacté notre mission pour défendre le pays et assurer la sécurité des Iraniens. Le moindre état d'insécurité sera irréparable et les missions de l'armée ne devront être perturbées en aucun cas. Le coordinateur adjoint de l'armée iranienne a souligné que les ennemis de l'Iran avaient plutôt peur de la présence active des Iraniens sur différentes scènes que des armements militaires de l'Iran. Les armements et les équipements militaires ne peuvent pas être efficaces sans le soutien indéfectible du peuple. Aucune armée ne peut réussir sans l'appui du peuple, a-t-il indiqué. Le haut responsable militaire iranien a averti que les ennemis voulaient briser la solidarité entre les Iraniens et semer la discorde entre le peuple et les responsables de l'État en exploitant tous leurs moyens, dont et surtout les réseaux sociaux et les chaînes satellitaires. Le contre-amiral Habibollah Sayari a réaffirmé que l'armée iranienne neutralisait dans toutes les circonstances, voire les circonstances critiques, toutes les menaces sur le sol, dans l'air et en mer visant le pays. L'administration américaine a sévèrement critiqué dimanche 22 mars la France pour avoir libéré l'ingénieur iranien recherché par les États-Unis dans le cadre d'un échange de prisonniers avec l'Iran. Le département d'État américain a déclaré qu'il regrettait profondément la décision unilatérale de la France de libérer Jalal Rouhani-Nejad, qui a fait l'objet d'une demande d'extradition américaine pour violation des sanctions américaines contre l'Iran. La porte-parole du département d'État américain, Morgan Ortagus, a déclaré dans un communiqué que la France n'avait pas respecté ses obligations en vertu d'un traité d'extradition à un conjoint et avait nui à la cause de la justice. Jalal Rouhani-Nejad a été libéré de prison vendredi 20 mars dans le cadre d'un échange avec le ressortissant français Roland Marshall, détenu en Iran depuis plus de 8 mois, accusé d'avoir violé les lois sur la sécurité de l'État. Le français Roland Marshall a été libéré quelques heures seulement après la libération de Jalal Rouhani-Nejad par les autorités françaises. Le dimanche 22 mars, des avions de combat de l'armée de l'air irakienne ont bombardé des fiefs des terroristes Daesh dans les montagnes de Hamarin, au nord de l'Irak. Selon le commandant adjoint des opérations de l'armée irakienne, de nombreux repères ont été détruits lors des frappes aériennes qui ont également éliminé des dizaines de terroristes Daesh. Situés juste entre les villes de Mossoul, Tikrit et de Kirkouk, les monts Hamarin sont connus pour abriter de nombreux repères des cellules dormantes de Daesh. Cette opération aérienne réussie prouve que l'armée irakienne est en mesure d'éliminer les résidus de Daesh sans le soutien de la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Les autorités locales afghanes ont fait part d'une attaque à la roquette contre une base américaine dans la province de Parvan. Dans un contexte d'escalade entre les talibans et les forces gouvernementales afghanes, les autorités afghanes ont annoncé que la base américaine dans la province de Parvan a été la cible de roquettes. Toutes les roquettes ont été interceptées par le système de défense de cette base sans faire de victimes, selon un rapport. Cette attaque a été confirmée dans un communiqué des forces étrangères sans donner plus de détails. Le groupe terroriste Daesh a revendiqué cette attaque. La police de Parvan avait fait également état ce dimanche de l'explosion d'une voiture bourrée d'explosifs dans la ville de Bagram, dans cette province. Cette voiture a explosé lorsque les forces de sécurité afghanes lui ont tiré dessus après qu'elle a refusé d'obéir à l'ordre de s'arrêter au poste de contrôle. Cette voiture se dirigeait vers la base de Bagram, a précisé le chef de la police de Parvan. De même, pendant ces 48 dernières heures, plus d'une quarantaine de militaires ont trouvé la mort dans les attaques des talibans contre les bases de l'armée afghane. Les forces de sécurité afghanes ont affirmé reprendre les attaques contre les positions des talibans. Et ce, alors qu'en vertu d'un accord conclu entre les États-Unis et les talibans, les bases américaines en Afghanistan doivent être épargnées par les attaques et que le sol afghan ne soit pas utilisé pour des attaques terroristes. Un Palestinien blessé le dimanche 22 mars par des tirs israéliens dans un point de passage dans la ville sainte de Rotz a trouvé la mort des suites de ses blessures, a rapporté lundi la chaîne d'information qatari Al Jazeera. Un autre Palestinien a été également blessé sous les balles des militaires israéliens, a-t-on appris de la même source. Selon la chaîne d'information libanaise Al Manar, un Palestinien a été tué dimanche sous les balles des militaires israéliens près de Neilin, à l'ouest de Ramallah, en Cisjordanie occupée. L'armée israélienne a prétendu que ce Palestinien jeter des pierres sur des voitures israéliennes. Les militaires ont tiré en direction de deux Palestiniens après qu'ils ont lancé des pierres et alors qu'ils se préparaient à en jeter d'autres, a prétendu l'armée israélienne dans un communiqué. Accompagné par son cousin, un citoyen palestinien répondant au nom de Soufiane al-Khawaja a été tué sous les balles des militaires israéliens. L'autre homme qui a été blessé est transféré à un hôpital à Ramallah, rapporte Al-Manar. Quittons la région et allons directement en Europe. Dans un message à l'adresse de Boris Johnson, Premier ministre britannique, le président français Emmanuel Macron a menacé de fermer les frontières françaises avec le Royaume-Uni si Londres ne prend pas de mesures drastiques pour enrayer la propagation du coronavirus. S'il persistait à ne prendre aucune mesure pour enrayer la progression de la pandémie de coronavirus sur son territoire, la France n'aurait d'autre choix que de refuser l'entrée sur son territoire à tous les voyageurs provenant du Royaume-Uni et de le considérer comme un pays tiers. Et tous les autres pays européens auraient fait de même, ce qui aurait été une très mauvaise nouvelle pour l'économie britannique et la politique de douce négligence du gouvernement, indique la présidence française. Alors que les pays européens ont imposé des restrictions pour freiner la propagation du coronavirus, le Royaume-Uni prend cette épidémie à la légère, a rapporté Reuters. Vendredi dernier, dans l'après-midi, Boris Johnson a ordonné aux restaurants, aux salles de théâtre et de cinéma et aux clubs sportifs de suspendre leurs activités en vue de ralentir la propagation du coronavirus. La décision a été prise par Johnson après que Macron l'a menacé vendredi dernier dans la matinée de fermer la frontière française avec le Royaume-Uni s'il ne prend pas de mesures très strictes pour empêcher la propagation du coronavirus, a écrit le quotidien français La Libération, citant des sources à l'Élysée. Et enfin, pour fermer le journal, la Guinée a vécu dimanche 22 mars un référendum et des législatives ternies par des violences qui ont fait des morts et des blessés, selon les deux camps. L'opposition qui a boycotté entend faire barrage à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. 10 morts selon le Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC, pour la seule journée de dimanche. 4 selon le ministère de la Sécurité, dont 2 dans les violences et 2 autres des suite d'un accident et par arrêt cardiaque, sans plus de précision. Le communiqué du ministère de la Sécurité ajoute que 9 agents de l'unité spéciale de la sécurisation des élections, dont 7 policiers, ont été grièvement blessés, alors que la FNDC annonce que plusieurs dizaines de ses sympathisants ont été blessés par balles. Cette guerre des communiqués intervient au soir d'un double scrutin législatif et référendaire souhaité et voulu par le pouvoir et contesté par l'opposition et la FNDC qui a connu des violences dans plusieurs quartiers de Conakry et dans certaines villes de province. Des manifestants se sont attaqués au bureau de vote, saccagés puis incendiés le matériel électoral dans plusieurs villes de la Moyenne Guinée et dans des quartiers de Conakry favorables à l'opposition. Toujours selon le ministère de la Sécurité, plusieurs individus ont été interpellés pour des faits de troubles à l'ordre public, détention et utilisation d'armes à feu, destruction de biens privés et publics, incendies, coups et blessures volontaires et rébellion, indique le ministère. Alors que la FNDC, lui, appelle à poursuivre les manifestations. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Irak, le coup d'État US a échoué, c'est le titre du commentaire politique. Sur fond de rumeurs de coup d'État possible des États-Unis en Irak, rumeurs que colportent certaines presses arabes de la région, un événement totalement inouï a été relégué au second plan. L'imposante démonstration de force des F-16 irakiens que les Américains ont cru pouvoir clouer au sol en leur refusant toute assistance dès le mois de janvier, soit peu après que l'Amérique de Trump et de Pompeo a eu la très très mauvaise idée d'assassiner les hauts commandants de l'axe de la résistance en plein aéroport de Bagdad. Le journal koweïtien Al-Jarida prétend en effet que les États-Unis auraient mis en garde leurs partisans irakiens contre un projet de coup d'État qu'ils préparaient et qui viserait à aider à l'arrivée au pouvoir d'un premier ministre conforme à la mission que Washington a confiée à l'Irak, à savoir répandre la démocratie au Moyen-Orient. Toujours selon le journal, l'assassinat ciblé du général Soleimani et du commandant Abu Mouandès le 3 janvier aurait été la première phase de ce coup d'État. Toujours selon cette source, Adnan al-Azoufi, que le président Saleh a présenté comme son candidat au poste de premier ministre et qui, à l'heure qu'il est, ne semble pas pouvoir faire l'unanimité, aurait même été mis au courant de la triple exigence US à son égard, qui sont les suivantes. Restreindre l'action des Hashd, couper les liens avec l'Iran et ouvrir les portes de l'Irak aux alliés arabes de Washington. Mais un coup d'État militaire US est-il possible en Irak? En déployant les effectifs de la division aéroportée 101 à Ain al-Assad, parallèlement à un retrait de leur petit contingent déployé à Qaem sur les frontières avec la Syrie, les Américains font tout pour croire qu'ils en sont parfaitement capables. Ce lundi, Al-Sumaria fait aussi état de ce que les GIs aient violé l'interdiction de circulation à Al-Anbar en s'affichant en public à Al-Baghdadi, à l'ouest de la province, et ce sur fond d'une intensification de la présence de leurs hélicoptères dans le ciel de l'ouest d'Al-Anbar. Mais de là à dire que les Américains sont capables de lancer un coup d'État militaire, genre ce qu'ils feraient en Amérique latine, dans un pays où la résistance les a littéralement piégés, c'est un pas qu'aucun analyste averti ne franchirait pas, surtout quand on voit de près l'impact des organisateurs qu'ont des tirs de roquettes sporadiques de ces dernières semaines sur les troupes US. Mais ce n'est pas tout. Le dimanche 22 mars, des avions de combat de l'armée de l'air irakienne ont bombardé des fiefs de terroristes Daesh dans les montagnes de Hamarin, au nord de l'Irak. Il s'agissait des F-16 que les Américains croyaient avoir totalement paralysés dès la mi-janvier, mais que les pilotes irakiens ont fait voler non loin des bases US en Irak, car Hamarin se trouve tout près de Mossoul, de Tikrit et de Kirkuk. Cette évolution se produit presque parallèlement à de nouvelles menaces US qui, selon The New York Times, cachent très mal l'impasse dans laquelle se trouve l'Amérique. Les États-Unis ont menacé de mener des frappes préventives sur les alliés de l'Iran en Irak si le gouvernement irakien ne réussit pas à bien protéger le personnel de la coalition dirigée par les États-Unis. C'est le secrétaire d'État adjoint américain pour les affaires du Moyen-Orient, David Shanker, qui a ressorti la menace le dimanche 22 mars en disant que les auteurs des récentes attaques visant le personnel de la coalition en Irak devraient en assumer la responsabilité. Même le journal américain New York Times n'y croit pas. Les frappes aux roquettes meurtrières contre les forces US ont poussé ces dernières à se retirer des bases qu'elles détenaient à travers l'Irak pour se replier à Ain al-Assad. Mais est-ce suffisant? La division aéroportée 101 ou les Patriotes seront-ils les protégés? Rien n'est moins sûr. Au fait, on est en plein dilemme. Refuser de riposter aux tirs de roquettes rendrait les pro-iraniens plus hardis. Riposter à ces tirs de façon limitée les intensifierait, tandis que des frappes massives contre les sites irakiens feraient couper tout contact avec l'armée irakienne et la montreraient contre les États-Unis. Le meurtre de Soleimani est de loin la plus grosse erreur stratégique que les États-Unis aient commis au Moyen-Orient, dit le journal américain New York Times.